14h30 sur Europe 1, on retrouve effectivement ici, c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard. On commence comme tous les jours par son biais d'humeur.
Pendant quelques minutes, essayez de ne penser à rien. Quand ce kinésithérapeute acupuncteur prononça cette injonction, Léa pouffa de rire intérieurement. Voilà près de 40 ans qu'elle fantasmait sur l'idée de ne penser à rien pendant quelques minutes. Mettre son cerveau en veille pour souffler enfin, reprendre sa respiration à peine un instant avant de rebrancher les fils. Lassée, voire ironique, elle ne put s'empêcher de commenter l'ordre du professionnel docteur. Je vous jure que j'aimerais tellement appuyer sur un bouton pour arrêter de tout analyser. Cette phrase, pourtant anodine, souvent prononcée par des patients en bout de course, sembla interpeller le spécialiste. Après lui avoir posé quelques petites questions anodines, il se lança « Étiez-vous une enfant précoce, mademoiselle ?» Léa répondit par l'affirmatif. Oui, objectivement, elle ne voyait pas le rapport. Pour elle, son surdon se résumait en un simple chiffre en haut d'un formulaire, un chiffre dont ses parents lui avaient vaguement parlé, une donnée sur laquelle elle ne s'était jamais penchée. En effet, jamais l'écolière, la collégienne ou l'étudiante n'avait eu le sentiment d'être plus intelligente que qui que ce soit, seulement peut-être un peu différente. Par la vitesse de son raisonnement, ce qu'on appelait ses facilités, par son extrême sensibilité et vulnérabilité, seules ses intuitions presque divinatoires l'intriguaient depuis son plus jeune âge. Aucune raison pour autant d'interpeller son entourage, ni même de l'évoquer avec ses amis. Ces histoires de QI n'avaient selon elle que le pouvoir de flatter l'orgueil des parents ambitieux. Le médecin de Léa ne sembla pas tout à fait d'accord. Pour lui, cette différence cruciale pourrait expliquer ce sentiment de marginalité, cette empathie, cette perception des autres, ces échecs également, ce fonctionnement intime sur lequel elle a toujours fermé les yeux. Et en effet, face au profil précis dressé par le magicien visionnaire, Léa sentit un poids se lever. Oui, c'était elle. Enfin, un mot, une explication sur sa fragilité. Comparant son cerveau à une carte routière virtuelle qui clignoterait dans tous les sens, Léa commença à se confier, à expliquer, puis à respirer. Sa vie, sa dépendance affective, ses relations amoureuses, amicales, professionnelles, tout allait désormais passer par le prisme de cette révélation. Comme un secret de famille sur lequel le voile est enfin levé, Léa a reconstruit le puzzle de sa vie, de cette analyse. Elle en est sortie grandie, épanouie, plus sereine. Et c'est ce qu'on vous souhaite aujourd'hui, vous qui ne savez toujours pas pourquoi vous avez le sentiment d'être juste un peu différent. Adulte, surdoué, trop intelligent pour être heureux, c'est la question qu'on vous pose. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. 14h30, 15h30, ici c'était ça le bonheur. Faustine Bollard.
Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Julia.
Bonjour Faustine.
Merci d'être avec nous, fidèle à votre émission. On parle beaucoup des enfants précoces, mais que deviennent-ils une fois qu'ils ont atteint l'âge adulte? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous l'avez compris.
Alors si vous avez été diagnostiqué surdoué vous-même, venez nous parler de ce que ça implique au quotidien dans votre vie professionnelle, affective. Si comme Léa, vous sentez différent, cette sensation est-elle source d'angoisse? Ou avez-vous réussi à faire de ce don une force? Eh bien on en parle avec vous.
Si vous partagez également l'avis d'un adulte précoce, si votre enfant a des capacités hors normes et que vous vous inquiétez pour son avenir, pour toutes vos questions, si vous vous reconnaissez dans ce qu'on va vous raconter, vous pouvez vous manifester au 3921.
Et puis pour tous vos commentaires et témoignages, il y a aussi la page Facebook de l'émission et l'adresse faustine.europe1.fr.
Europe 1, 14h30, 15h30.
Ici, c'était ça le bonheur. Faustine Bollard.
Au sommaire aujourd'hui, nous serons en ligne dans quelques minutes avec Cécile Bost. Elle a découvert son potentiel, son don à l'âge de 42 ans. Elle se livre aujourd'hui dans un ouvrage de témoignage à travers lequel elle espère aider ceux qui ont des capacités intellectuelles supérieures à la norme. Après 15h, ça sera la recette du bonheur, comme tous les jours. Aujourd'hui, c'est Roland Giraud qui a répondu à nos questions. Et puis, nous sommes jeudi. Et le jeudi, c'est Anthony. Anthony Bélanger sera avec nous dans la dernière partie de cette émission pour son tour du monde insolite, comme chaque semaine. Ce matin, on a reçu un message que je voulais vous lire. Heidi qui nous écrit « J'ai fait une grosse dépression il y a 2 ans. Je n'ai pas compris tout de suite ce qu'il m'arrivait. J'étais mal, je cherchais un sens à tout et plus rien n'avait de sens. Une amie m'a conseillé le bouquin de votre invité, Trop intelligent pour être heureux. » Notre invité que je vais accueillir dans une minute. Elle dit « J'ai mis un mois à oser l'acheter. Je n'avais jamais envisagé être surdouée et puis je l'ai finalement lu. Je me retrouvais dans tellement de choses qui étaient écrites. Aujourd'hui, je vais mieux. J'ai arrêté les antidépresseurs depuis 10 mois et j'arrive à accepter de vivre. Je suis surdouée, je ressens ça comme une pathologie proche de l'autisme. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas m'enfermer dans ce carcan de la surdouance et j'essaie de vivre au contact de gens normaux qui vivent sans philosopher de tout. Dites merci à votre invité pour m'avoir empêché de sombrer. » On se retrouve dans une petite minute avec cet invité, justement, sur Europe 1.
Ici, c'était ça le bonheur.
Faustine Bollard.
La psychologue Jeanne Siofachin est avec nous aujourd'hui pour évoquer le quotidien de ces adultes précoces. Bonjour Jeanne.
Bonjour Faustine.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue et auteur du livre dont on parle depuis le début de cette émission, Trop intelligent pour être heureux, aux éditions Odile Jacob. Est-ce que quand on parle d'adultes précoces, adultes surdoués, ça veut dire la même chose que
je Oui, bien sûr. Sauf que tout de suite, dès qu'on est adulte précoce, il y a quand même quelque chose qui convient pas. Et on voit bien cette difficulté parce que quand vous disiez dans votre petit billet d'humeur, qu'effectivement on se préoccupe des enfants précoces, dits précoces, et qu'ensuite on s'en préoccupe plus à l'âge adulte, c'est que justement il y a déjà cette confusion. C'est-à-dire qu'un enfant précoce, ça serait un enfant qui se serait développé intellectuellement plus vite que les autres. Et puis avec cette idée, et donc ce mythe erroné, bien évidemment, qu'à l'âge adulte, tout ça se stabiliserait comme si vous faisiez une puberté précoce ou une croissance précoce. Il y a un moment où vous êtes comme tout le monde et puis point. Donc déjà, donc adulte
précoce...
C'est pour
ça qu'on ne parle pas des adultes surdoués. C'est qu'en effet, on les associe à ces enfants précoces et on se dit qu'on y pense plus, ça n'existe pas presque. Bah,
c'est-à-dire que je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Donc effectivement, déjà, il y a ce terme de précocité qui finalement peut compliquer un peu la donne pour en parler à l'âge adulte. Et puis il y a l'école qui est le grand révélateur des difficultés souvent de ces enfants qui peuvent être en échec scolaire et en échec scolaire quelquefois grave. Ils peuvent aussi réussir à l'école, ne faisons pas de dramatisme. Donc il y a l'école qui est le grand révélateur de la différence ou de fonctionnement, de raisonnement. Et bravo pour votre petit billet d'humeur qui résume parfaitement les caractéristiques du fonctionnement de ces enfants et ces adultes. Donc, il y a l'école. Et ensuite, on a cette espèce d'idée qu'à l'âge adulte, de toute façon...
Les choses vont rentrer dans l'ordre.
Oui, puis on va s'adapter. On va fonctionner avec ce que l'on est et puis qu'on va s'en débrouiller. Et que si on a dans la tête qu'être surdoué, c'est simplement ou serait simplement être quantitativement plus intelligent... Eh bien, bon,
c'est
ben voilà.
C'est pas ça.
C'est pas ça. On n'est pas dans une histoire quantitative, on est vraiment dans quelque chose de qualitatif et qui va donner, c'est ce dont on va parler, j'imagine, des caractéristiques bien singulières au fonctionnement de ces adultes.
Alors, on va évidemment développer ça tout au long de cette émission. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'adultes qui seraient concernés en France ?
Oui, et ça me permet de compléter ma réponse d'avant, c'est-à-dire que je crois qu'aussi on est encore très prisonnier, en particulier en France, d'un mythe assez fort, c'est-à-dire que l'intelligence est un peu tabou. On a le droit d'être très fort en musique, d'avoir l'oreille absolue, tout va bien. On a le droit d'être très fort en sport, mais dès qu'on parle d'intelligence, c'est comme s'il y avait quelque chose d'injuste et que l'intelligence comporte quand même ce mythe. Tout le monde doit être égaux. Hein, on est quand même liberté.
Donc on a du mal à le dire.
Un peu. C'est comme on a du mal à parler d'argent en France. Et ben on a du mal à parler d'intelligence. Hein, donc et d'ailleurs les adultes qui sont surdoués, qui ont été diagnostiqués ou qui pensent l'être et qui ont effectivement toutes les caractéristiques, ont du mal à le dire. C'est très compliqué d'arriver et de dire « Bonjour, je me présente, je m'appelle Faustine et je suis surdouée ». C'est une composante importante.
Vu,
ben oui, parce que
c'est prétentieux.
Ben oui, tout de suite, ça peut être vécu comme prétentieux, comme arrogant pour celui-là, mais pour qui il se prend, mais en quoi il pense qu'il est supérieur.
Donc il y a des tas de gens en fait qui seraient surdoués des adultes et qui ne le sauraient pas, qui n'ont pas été détectés, ou sinon tout simplement qui n'osent pas en parler.
Oui, qui n'osent pas en parler et qui n'osent même pas le penser pour eux-mêmes, parce que très souvent, comme ils ont été en difficulté sur leur parcours, comme souvent ils n'ont pas réussi justement à poursuivre les études ou les projets qu'ils avaient. Comme effectivement, à leurs yeux, ils ne valent pas grand-chose parce qu'ils ne sont pas tout à fait dans les vies qui leur conviennent, même eux n'osent pas pouvoir se penser différent ou se penser surdoué. Et c'était très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure aussi, de la difficulté à acheter mon bouquin. C'est-à-dire que d'arriver à la caisse avec un livre Trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué, il y a des adultes qui m'ont raconté qu'ils tournaient le bouquin pour pas qu'on voit, comme si c'était honteux de pouvoir imaginer qu'on pouvait être plus intelligent. Alors par rapport à la question du nombre, en fait il y a des statistiques, hein, c'est-à-dire que par rapport à la courbe de Gauss, qui est la répartition de la population autour de la norme, ça correspond à un peu plus de 2% de la population, ce qui est en fait énorme. Parce que 2% de la population, ça fait quand même des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui sont concernées.
On est considéré comme surdoué, encore une fois, c'est vrai, je suis d'accord, même quand on en parle, il y a un peu un tabou.
Oui,
quand on a un QI supérieur à combien ?
Alors, ça c'est aussi, il faut faire attention, hein. Un QI n'est pas un diagnostic. Un QI, c'est un indice qui va orienter le diagnostic. Et pour poser un diagnostic, il faut toujours qu'il y ait un faisceau de signes qui convergent et une analyse approfondie aussi de la personnalité de la personne et du patient ou de la personne qui fait le bilan. Parce qu'un QI, c'est comme la fièvre. Si vous avez 39 de fièvre, ça ne veut pas dire que vous allez avoir systématiquement la même maladie. Hein, c'est tous les autres signes, les autres symptômes qui vont être autour. Donc là, il ne s'agit pas de symptômes parce qu'on n'est pas dans la pathologie. Hein, déjà, être surdoué, ce n'est pas une pathologie.
Oui, contrairement
c'est une...
à ce que disait notre auditrice,
exactement.
La question qu'elle se posait.
On peut le ressentir parce qu'on ressent ce sentiment de différence et de décalage. Oui, ça, bien sûr, fondamentalement, mais ce n'est pas une pathologie. Donc, effectivement, le QI... Habituellement, on considère que c'est autour de 130 qu'on commence à se poser la question. Mais ce n'est pas le seul indice. Surtout, faire un test de QI et se dire « j'ai 130, je suis surdoué », c'est la voie ouverte. Oui, puis c'est vraiment la voie ouverte à faire des erreurs diagnostiques qui peuvent être très néfastes pour la personne. Hein.
Alors, on va se retrouver, si vous voulez bien. En quoi le cerveau d'un adulte surdoué fonctionne différemment, justement, que celui d'un adulte plus normal? En quoi cette différence peut expliquer de nombreuses souffrances dans la vie de tous les jours? Comment savoir si, en effet, vous n'avez pas, vous-même, peut-être pas été détecté précoce? On se retrouve dans une petite minute après la musique sur Europe 1.
Jusqu'à 15h30. Et si c'était ça le bonheur? Sur Europe 1.
Merci d'être avec nous. Sont-ils trop intelligents pour être heureux? C'est la question que se pose la psychologue Jeanne Ciot-Fachin, qui depuis des années se penche sur le cas des adultes surdoués. Ce sont eux qui nous intéressent aujourd'hui sur Europe 1. Eux d'ailleurs, c'est peut-être vous. Jeanne, vous me disiez que vous aimeriez vous rencontrer des adultes, peut-être on peut lancer un appel, en effet, des adultes qui ont été vraiment diagnostiqués surdoués et qui finalement... s'en sont dépatouillés, quoi.
Oui, c'est ça, s'en sont débrouillés, parce que c'est vrai que nous, les psys, on a un biais, parce qu'on rencontre a priori ceux qui vont plutôt pas très bien, voire très mal. Et même si, et on peut en parler, bien sûr, j'ai des hypothèses et même des confirmations sur des facteurs qui font que certains s'en débrouillent mieux que d'autres, c'est vrai que moi, ma grande question aujourd'hui, et que j'aimerais beaucoup rencontrer une espèce de panel d'adultes surdoués qui, comme vous le dites, s'en sont plutôt bien
sortis,
débrouillés, et malgré les difficultés qu'ils ont sûrement rencontrées, s'en sont débrouillés, c'est pourquoi ceux qui vont bien, vont bien.
D'accord.
Voilà.
Eh ben pourquoi pas, en effet. N'hésitez pas à envoyer vos coordonnées sur europe1.fr. Vous nous disiez tout à l'heure que le cerveau d'un adulte précoce ne fonctionne pas de la même manière, c'est-à-dire...
Oui, c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que déjà, toutes les intuitions des cliniciens sont aujourd'hui complètement confirmées par les neurosciences. C'est-à-dire que ce qu'on sait très bien maintenant, c'est qu'au niveau de l'architecture du cerveau, de la construction du cerveau, ça ne marche pas pareil dans le cerveau d'un adulte surdoué, qui n'a donc rien à voir avec un adulte qui serait... quantitativement plus intelligent. Il y a des gens qui sont extrêmement brillants intellectuellement, mais qui n'ont pas ce fonctionnement très particulier. Et ce fonctionnement particulier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va trouver, par exemple, une très grande activité cérébrale, c'est-à-dire que ce sont des cerveaux, et vous l'avez dit là encore dans votre petit billet d'introduction.
Écoutez, je n'arrive jamais à m'arrêter de penser une seconde.
Voilà, c'est-à-dire qu'un cerveau qui est toujours en marche, mais au niveau électrique, on le constate. C'est-à-dire que quand on fait de l'imagerie fonctionnelle, on voit non seulement que le cerveau est toujours en activité, quelle que soit la situation, mais on voit aussi surtout que, vous savez, normalement, par exemple, quand on parle, on active plus spécifiquement la zone dédiée au langage. Et les autres zones sont plutôt en recul. Eh bien, chez un surdoué, quel que soit le contexte, quel que soit le sujet, l'information est distribuée. C'est-à-dire que l'ensemble du cerveau prend en charge l'information. Et on comprend bien donc que cette espèce d'hyperconnectivité
cérébrale... Donc on peut se noyer dans cette hyperconnexion, c'est-à-dire être épuisé soi-même et étouffé par ces informations permanentes qui, entre guillemets, rien ne glisse dessus, quoi. Rien ne glisse sur les adultes.
Oui, c'est-à-dire que tout est pris en compte tout le temps. C'est-à-dire que comme en plus ce sont des adultes qui sont hyperesthésique, un mot un peu savant pour dire quelque chose de très simple, c'est-à-dire une sensibilité exacerbée de l'ensemble des cinq sens, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui voient ce que les autres ne voient pas, donc ont un champ de vision beaucoup plus large, un champ de vision périphérique beaucoup plus large, qui entendent ce que les autres n'entendent pas, qui sentent ce que les autres ne sentent pas, eh bien ils sont assaillis en permanence d'une multitude d'informations en provenance de l'environnement.
Et du coup,
le cerveau prend en charge tout ça et se suractive. Et donc ça déploie une rapidité, parce que ça aussi, ça a été complètement évalué au niveau neurosciences, au niveau neurophysiologique, c'est-à-dire qu'il y a une plus grande rapidité de traitement de l'information. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous percevez quelque chose et le moment où c'est pris en charge par le cerveau, ça va plus vite. Donc, il y a plus d'infos qui sont prises en compte avec une plus grande rapidité de traitement de l'information. Et donc, cette grande arborescence de pensée qui se déploie à très grande vitesse et avec cette sensation de pensée
intuitif aussi,
sans limite.
Ça va vite, oui. Stéphane est en ligne avec nous. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Faustine, bonjour à votre invité.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le père d'une enfant précoce qui a été diagnostiquée précoce ?
Oui, qui l'a été il y a un peu plus d'un an maintenant, parce qu'on avait des questionnements avec mon épouse sur un certain mal-être, on va dire, une certaine hypersensibilité à des choses qui nous semblaient un peu précoces, c'est le cas de le dire. Mmh. Beaucoup de questionnements autour de la mort, autour du sens des choses, profond, des choses, le sens profond des choses. Donc on l'a fait rencontrer quelqu'un qui est spécialisé et qui en tout cas a l'habitude de rencontrer des enfants pour qui ce genre de questions se posent. Donc il y a eu confirmation d'une précocité. Alors c'est vrai que c'est toujours étonnant parce que c'est pas un tableau homogène, c'est-à-dire que il y a un chiffre important dans le lot et puis il y a des chiffres qui paraissent très bas par rapport au chiffre maximum, on va dire. Et elle souffre finalement plus de cet écart à gérer ses émotions.
Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, Stéphane, de savoir ça?
Parce que
vous,
votre idiot, ça m'a rapporté une certaine réassurance. C'était quelque chose que je soupçonnais.
Sur la fiche que j'ai sous les yeux, vous dites que ça vous a apporté des réponses par rapport à votre propre parcours professionnel.
Ça m'a apporté des réponses et pratiquement j'avais presque envie d'en être infirmé, c'est-à-dire que finalement j'aurais presque préféré dans mon cas me rendre compte que ma fille n'était pas précoce d'une certaine façon, parce que le fait qu'elle le soit et ce qu'elle me renvoyait de sa façon de voir le monde me renvoyait moi à ma façon de voir le monde. Et il a fallu du temps pour que je me rende compte que je l'étais probablement, que je l'étais certainement même depuis, et que ça me questionnait sur ma propre enfance.
Il y a une forme, je me permets de vous interrompre Stéphane, il y a une forme d'hérédité, il y a de l'hérédité dans le...
Oui, oui, de toute façon il y a une composante génétique, donc ça ne veut pas dire qu'un papa et une maman surdouée vont faire une ribambelle d'enfants surdoués, c'est pas le sujet, mais bien sûr il y a une composante génétique qui joue, et ce qui est intéressant dans le témoignage de Stéphane, c'est que en fait moi c'est ça qui m'a amené à écrire le livre sur les adultes, c'est le nombre de fois où en fait je faisais un compte-rendu de bilan pour un enfant à décrypter le fonctionnement de cet enfant et à expliquer et à donner du sens, parce que l'intérêt d'un diagnostic, c'est de donner du sens, c'est de lever un voile, c'est-à-dire de pouvoir justement reparcourir son parcours en comprenant qu'est-ce qui a pu se passer et pourquoi on a vécu les événements de telle ou telle façon. Et c'est justement quand je faisais ces comptes rendus de bilan et que les parents me disaient « mais j'ai l'impression que vous me parlez de moi » et je voyais les parents se décomposer dans mon bureau, que c'est en fait c'est comme ça que je suis venue à m'intéresser aux adultes en me disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et effectivement, parce que moi-même, je ne m'étais pas posé la question.
Alors merci Stéphane, on va continuer à décrire un petit peu cette façon d'être, parfois ces souffrances, cette vulnérabilité, cette hypersensibilité. On va donner la parole à une femme qui a 42 ans, a découvert sa précocité. Elle signe un livre qu'elle souhaite utile pour tous, comme le vôtre. On va se retrouver juste après ça avec elle.
Si c'était ça le bonheur.
Si c'était ça le bonheur, sur Europe 1.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Je voudrais qu'on accueille avec Jeanne Siofachin, Cécile Bosse, qui a été justement d'ailleurs une de vos patientes. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du livre « Différences et souffrances de l'adulte surdoué » aux éditions Vuibert. Vous avez découvert donc le fait d'être une adulte surdouée en consultant justement Jeanne. Comment vous l'avez pris cette nouvelle ?
Alors je voudrais juste rectifier une chose. J'ai d'abord consulté Jeanne Siofachin. Bonjour Jeanne.
Bonjour Cécile.
Parce que je tiens absolument à rappeler ici que Jeanne a sauvé mon fils. C'est parce que j'avais un de mes enfants qui allait très mal.
D'accord.
On m'a demandé, il y avait du TADA dans l'air, et dans le cadre d'un protocole d'identification de TADA, c'est-à-dire de l'hyperactivité, on demande toujours un test d'intelligence. Mmh. Et donc je l'ai fait passer à mon fils, et la psychologue qui le lui faisait passer, je discutais avec elle sur... je trouvais qu'à ce moment-là, je me posais des questions sur un décalage bizarroïde que je ressentais avec le reste du monde en permanence. Elle m'a parlé du livre de Jeanne. Mmh. Et j'ai lu ce livre et effectivement quand Jeanne a rencontré
sur l'enfant, le livre que vous aviez écrit sur les enfants.
Oui, tout à fait. C'était en 2002 quand Jeanne a rencontré mon fils. Je lui ai dit écoutez, ce livre, effectivement, je me suis reconnue dedans. Mais ça serait quand même bien que vous écriviez un truc sur les adultes parce que en fait, Oui, c'est très intéressant, c'est un bilan, mais après, je fais quoi de ça? Enfin, si vous voulez, vous prenez quelque chose au bout des doigts, puis vous le regardez sous tous les angles en disant, et c'est bon, d'accord, je veux bien, et j'en fais quoi? Par quel bout on prend le problème? Comment on fait? Où est-ce qu'on va? Je passe sur la démarche, mais en fait, enfin, sur l'historique, si vous voulez, mais il y a eu des circonstances un peu dramatiques qui ont fini par me faire poser des questions. Et Jeanne Siofachin disait effectivement tout à l'heure, quand je vois arriver des patients, en général, ils vont très mal, mais j'ai quand même quelques idées sur ceux qui s'en sortent. J'ai cherché à comprendre ce qui se passait, pourquoi il y en avait qui s'en sortaient pas et pourquoi il y en avait qui s'en sortaient.
Il y a eu un avant et un après cette nouvelle, vous, dans votre vie privée, professionnelle?
Écoutez, à franchement parler, non. Enfin, tout est relatif. À franchement parler, non, dans ma vie professionnelle, parce que ça arrivait à un moment où, de toute façon, tout s'était effondré. Bon, donc...
Mais vous avez reconstruit avec cette donnée, du coup?
Non, pas du tout. Parce que je savais pas du tout, je savais pas comment ça fonctionnait. Franchement, j'étais pas bien avec, et j'ai été amenée à discuter sur un chat avec des copains de chatter. On était tous un peu dans la même galère, en disant bon, d'accord, on est surdoué, and so what, on va pas mettre ça sur une carte d'identité. On fait quoi avec ça? Comment ça fonctionne? Vous parcourez Internet, vous lisez des listes entières, c'est un peu compliqué.
Du coup, vous avez décidé de faire des vraies recherches?
Oui. Et en fait, ce qui me tracassait, c'est que j'ai quand même entendu, Jeanne, vous le savez, les psychologues, quand ils parlent de surdon, vous l'avez dit vous-même, on regarde toujours ça d'un drôle d'air, l'air de dire, mais pour qui ils se prennent, mais c'est quoi ce truc, c'est un Barnum, c'est du n'importe quoi. J'ai rencontré quelqu'un un jour qui m'a dit, mais c'est juste une vue de l'esprit. Donc je me suis dit, bon, alors, c'est vrai ou c'est pas vrai? Je veux savoir si ça existe vraiment. Et donc je suis allée parcourir des communications scientifiques en neurophysiologie pour comprendre comment ça fonctionnait. C'est-à-dire que ce que Jeanne a raconté très joliment tout à l'heure, en disant que bon, on captait des tas d'informations et autres, moi je suis allée mettre des mots tels que neurones, axones, myéline et autres sur le sujet pour comprendre mécanique.
Et ça a été une thérapie pour vous, justement, de comprendre?
Eh bien oui, alors là pour le coup, oui, une forme de thérapie. D'abord parce que je pense que il y a beaucoup de culpabilisation à fonctionner différemment, sans mettre le mot dessus, parce qu'on ne sait pas. On ne comprend pas ce qui se passe, on est normal comme les autres, hein, deux bras, deux jambes, deux yeux. Mais on ne comprend pas comment on fonctionne. Et puis ensuite, une fois qu'on vous dit vous êtes surdoué, oh là. Et donc c'est... Alors, cette thérapie, moi, ça me permet de dire, ça m'a déculpabilisé. Dans le livre que j'ai écrit, j'ai repris une phrase de Jessica Rabbit qui dit « J'y peux rien, j'ai été dessinée comme ça ». Bon. Maintenant, je voudrais pas qu'on reste dans le misérabilisme. J'y peux rien, j'ai été dessinée comme ça. Être surdoué, c'est pas une malédiction. C'est vraiment pas une malédiction. En revanche, bon, y a un problème, on le résout.
Et tout le travail consiste à transformer ces différences en atouts, justement, pour avancer. Et ça va être un petit peu ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cette émission. Merci Cécile, en tout cas, d'avoir témoigné. Différences et souffrances de l'adulte surdoué, c'est aux éditions Vuibert. On va continuer à décrire ce fonctionnement, cette hypersensibilité de l'adulte surdoué. On va voir de quelle manière également on peut apprivoiser cette différence, quelles conséquences elle peut avoir sur la vie quotidienne au travail et avec notamment les amoureux, et vous allez voir en fait vraiment qu'on peut en faire une force. Il faut juste apprendre à travailler avec ça. Puis on a beaucoup de mails qui nous arrivent également, dont je vous ferai part. Ça sera après les infos.
Europe 1. 14h30, 15h30. Et si c'était ça le bonheur? Faustine Bollard.
Merci d'être avec nous pour la deuxième partie de cette émission consacrée aux adultes surdoués, ce qui est peut-être votre cas et vous ne le savez peut-être pas. Justement, après la recette du bonheur, on va se demander quelles peuvent être les conséquences de cette précocité dans la vie professionnelle ou sentimentale. Et là encore, cela peut vous interpeller. 3921 pour toutes vos questions ou tous vos témoignages. On écoute la recette du bonheur comme tous les jours. Aujourd'hui, c'est Roland Giraud qui a répondu à nos questions.
Europe 1. Et si c'était ça le bonheur? La recette du bonheur.
La recette du bonheur, c'est de pas trop penser à soi-même et de penser un peu plus aux autres ou à l'autre. Parce que globalement, le fait de dire à quelqu'un « bonjour, comment allez-vous », ça le met de bonne humeur et donc il va être plus agréable avec moi et c'est interactif, si vous voulez. Voilà. Donc la recette du bonheur, c'est de pas trop penser à soi, sinon on n'a que la recette de la dépression nerveuse, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Un film culte, Moi, j'aime beaucoup, évidemment, le Couffin que tout le monde a vu, mais parce que je trouve que c'est un film réussi et une jolie histoire, et que c'est la première fois qu'on faisait un film généraliste, comme le faisait Chaplin, c'est-à-dire sur un grand thème. Là, c'était la paternité.
Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot.
Voilà, c'est un film généreux et émouvant. C'est un film que j'ai fait, mais dans les autres films, il y en a beaucoup, mais il y en a plusieurs. Il y en a tellement que j'aime que c'est difficile de trouver un comme ça. Si, Marianne de ma jeunesse. Parce que c'était Marianne de ma jeunesse, c'est un film de Julien Duvivier, qui raconte une histoire d'amour dans une colonie entre un jeune homme et une jeune fille qui est très, très réservée. Et c'est un film magnifique de Julien Duvivier, qui date de 1954. Et que j'ai vu 15 fois à l'époque, et que je revois encore à la télévision, j'ai même le DVD à la maison, qui est un film d'une poésie, d'un romantisme extraordinaire pour un adolescent. Celle que j'aime le plus, c'est la première dont je me souviens dans ma vie, c'est une chanson des Compagnons de la Chanson qui s'appelait Les Trois Cloches, qu'ils ont chantée avec Edith Piaf au début de leur carrière, parce qu'elle les a aidés.
Une cloche sonne, sonne, sa voix d'écho en écho. Dites au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nicot.
C'est une très belle chanson, qui est pour moi une chanson magnifique, parce qu'elle raconte la naissance, le mariage et la mort. C'est une vie. Et voilà, Les Trois Cloches, c'est la chanson qui me touche le plus au niveau du souvenir et au niveau de la qualité du texte et de la musique.
Merci beaucoup Roland Giron. On vous retrouve sur la scène du Théâtre du Palais Royal dans la pièce Le Technicien. C'est jusqu'au 25 juin prochain.
Europe 1, 14h30, 15h30.
Et si c'était ça le bonheur ? Faustine Bollard.
Jeanne Siofachin est toujours avec nous. Elle se penche depuis des années sur le cas des adultes surdoués. C'est le thème de notre émission du jour. Beaucoup de témoignages. Viviane qui me dit « Je me reconnais totalement dans le profil de votre billet d'humeur. Je calcule tout ce qui doit être épuisant pour mon entourage. Un de mes fils a été détecté précoce. Je n'ai jamais osé aller voir un spécialiste. D'ailleurs, je ne saurais même pas vers qui me tourner de peur du résultat. » Deux questions. D'abord, vers qui on se tourne si on a envie de savoir, justement, et pourquoi elle a peur, cette femme, Viviane, si ça peut l'aider à aller mieux?
Effectivement, d'abord, on se tourne vers les psychologues, qui sont les seuls habilités à pratiquer des bilans psychologiques, mais c'est vrai que là, ce qui est un tout petit peu difficile, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas très répandu et qu'il n'y a pas beaucoup de psychologues spécialisés pour les adultes surdoués. Il y en a de plus en plus pour les enfants, mais encore très peu pour les adultes, et que ce n'est pas très simple de faire un bilan pour un adulte surdoué. Et puis, ça se comprend que d'avoir peur, parce que si on se reconnaît soit dans son enfant, soit effectivement on se reconnaît dans mon livre et que finalement on se dit que c'est à cause de ça et qu'on comprend mieux ce qu'on a vécu et qu'on fait un bilan et que finalement ça s'avère ne pas être ça, c'est une espèce de rencontre avec soi qui peut être douloureuse. C'est-à-dire que c'est finalement, on a l'impression d'avoir une réponse à une question et finalement la question reste ouverte parce que le bilan ne vient pas confirmer.
C'est peut-être un autre échec,
voilà. Enfin, pas forcément un échec, mais en tout cas quelque chose qui va ajouter de la douleur sur la douleur et sur la recherche. C'est-à-dire que c'est parce que en plus ce qui est important, c'est que mais là je reviens sur la quête de sens. C'est-à-dire que de toute façon les adultes surdoués, ils ont aussi cette quête de sens qui est constante, donner toujours un sens à tout. C'est comme si rien ne pouvait exister si on n'arrivait pas à savoir vraiment pourquoi et pourquoi précisément. Donc cette recherche de précision absolue, cette recherche qui ne s'arrête jamais. Et il y avait un témoignage, je crois, de Stéphane tout à l'heure, ou peut-être une autre, peu importe, mais où il était bien expliqué qu'il y avait toujours ces questions aussi très existentielles sur la vie, sur la mort, et qu'on retrouve de façon précoce, effectivement, cette fois-ci, chez les enfants très jeunes.
Vous dites également qu'ils sont touchés par des valeurs comme la justice et l'intégrité.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose au niveau du sens des valeurs qui est extrêmement fort, c'est-à-dire l'intégrité, la justice, la sincérité, la confiance, l'amour qui doit être avec un grand A, c'est-à-dire toutes les choses doivent être absolues. Et c'est vrai que ce sont des personnalités qui ne supportent pas, mais au sens physiologique du terme, dès lors que les choses ne sont pas comme la personne pense que ça devrait être. C'est-à-dire cette espèce de notion, les choses doivent être d'une certaine façon, en adoptant et en étant conforme à ses valeurs, hein, d'intégrité, de sincérité, d'authenticité. Et si elles ne sont pas, c'est un drame. C'est un véritable drame.
Et c'est ça qui nous ramène aussi sur... on parlait des caractéristiques plus intellectuelles au niveau du cerveau et qui nous ramène sur les caractéristiques au niveau de la sensibilité et de l'extrême sensibilité, puisque effectivement, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la réactivité émotionnelle, là... Une fois encore, au niveau neurophysiologique, on a dans le cerveau une espèce de micro-zone qui s'appelle l'amygdale, qui est au fin fond de notre cerveau archaïque, oui. Et dont la mission est de décoder les émotions. Oui. Tout le monde, hein, on a tous cette amygdale. Sauf qu'il a été montré au niveau des études une vulnérabilité particulière de l'amygdale chez les surdoués. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ce qui va être une broutille chez quelqu'un d'autre va déclencher... chez ces personnes-là, des cataclysmes émotionnels. Donc en fait, ce sont des gens qui sont tout le temps pris au piège de leur émotivité et leur sensibilité. Et chez les enfants, on le voit bien, c'est des enfants, même si ils font un peu les malins, les marioles, même s'ils
ce
font
sont
un peu des
clous. Éponges.
Oui, c'est des éponges.
Perméables à tout.
Oui, mais ils ont très vite les larmes. Si on observe, si on est un peu attentif, ils ont très vite les larmes aux yeux. Ils prennent énormément sur eux. Donc quelquefois, ils explosent dans des colères indescriptibles. Les parents craquent et c'est authentique. Difficile.
On va prendre Béatrice. Bonjour Béatrice.
Bonjour Faustine. Bonjour madame.
Ah, je vous sentais que ça vous fait rire parce que vous vous reconnaissez Béatrice.
Ah, mais totalement, j'ai l'impression qu'on parle de moi. J'ai l'impression que cette émission m'est dédiée. Et c'est
bah, un peu en même temps. Hein.
Oui, c'est bien. Mais c'est bien parce que c'est quelque chose qui effectivement produit des drames parfois dans les familles parce que c'est facteur d'incompréhension en fait de l'entourage. Enfin, je sais que ma vie a explosé en mille morceaux parce que justement ce côté, cet aspect de ma personnalité a pris le dessus à un moment et puis voilà.
Est-ce que vous faites quoi aujourd'hui comme métier ?
Alors, j'étais avocat. J'ai été très attachée aux valeurs de justice et j'ai fait du droit pour ça, mais je suis devenue avocat un peu par hasard. J'ai accompagné mes amis à l'examen d'entrée à l'école d'avocat et j'ai réussi, je l'avais pas préparé du tout, donc voilà, et je n'aimais pas du tout ce métier. J'ai tout fait exploser il y a quelques années, j'ai à l'occasion de bilan de compétences, où là, on m'a confirmé ma précocité, un QI exceptionnel. Et puis, j'ai eu aussi une petite fille qui m'a confrontée à moi-même parce que, eh bien, elle s'est révélée elle-même précoce et difficile à gérer, etc. Et aujourd'hui, j'essaye de reconstruire ma vie à la fois en écrivant. Alors j'écris des contes pour enfants, j'essaye d'écrire un roman dans lequel il y a toutes ces valeurs, cet attachement aux valeurs qui est mis en exergue d'ailleurs, ce questionnement sur la vie, voilà. Et puis je m'occupe énormément de ma fille qui a 9 ans aujourd'hui, mais qui a été détectée précoce à l'âge de 4 ans, oui. et qui m'occupe énormément, voilà.
Je me permets de me tourner vers Jeanne, est-ce que les adultes surdoués vont instinctivement se tourner vers tel ou tel métier?
Alors instinctivement non, parce que souvent ils sont plutôt en errance, c'est-à-dire que ce qui est assez étonnant, c'est que quand les enfants sont jeunes et ils ont des milliers d'idées, c'est-à-dire quand vous les interrogez, ils vous disent à la fois qu'ils voudraient être pompiers, chirurgiens, maîtresse, astronautes, savants, inventeurs, tous les métiers, et puis progressivement ils sont dans une espèce d'inquiétude et de doute, parce que quand on a cette espèce de pensée qui fonctionne, c'est-à-dire que chaque fois que vous avez une question, vous avez toujours une nouvelle question qui vient et jamais une réponse et jamais une certitude. C'est-à-dire que la question, je vous vois sourire, Faustine, ça vous rappelle quelque chose ?
Non, mais c'est vrai que ça vous parle.
Ça vous parle, hein ?
Non, mais je comprends en tout cas ce fonctionnement.
En tout cas, les questions n'entraînent jamais de réponse, mais de nouvelles hypothèses et nouvelles questions. Et au moment où il faut déterminer de choisir une chose parmi des milliers, c'est un moment à l'adolescence où en plus on dit aux ados un truc complètement paradoxal, on leur dit maintenant, il faut que tu choisisses, parce que tu n'as plus le choix. Oui, d'accord. Sauf que, eh ben, effectivement, choisir, c'est renoncer. Et on va le retrouver dans l'engagement amoureux. Et du coup,
c'est-à-dire qu'on a du mal à s'engager.
Voilà. Et pourquoi choisir ça plutôt que ça, alors que finalement, tout
nous
intéresse.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose. Oui, je comprends.
Parce que quand vous avez des tas de choses qui vous intéressent et des tas de choses où vous avez l'impression que vous pourriez vous épanouir et être heureux, justement, puisque c'est quand même le thème de l'émission, et être heureux dans ces voies-là, comment choisir? Alors après, ce qui est vrai, pour répondre de façon plus...
C'est-à-dire que l'angoisse permanente, qu'il y ait une vie meilleure ou mieux, ou qui nous correspond mieux, qui puisse attendre juste
oui,
à côté.
Oui, puis des incertitudes. Mmh. C'était, là, je discutais hier avec une patiente, une adulte surdouée, qui elle me disait chaque fois que je rencontre... Et il se trouve qu'elle est avocate, elle, justement, aussi de formation. Et elle me disait chaque fois que je rencontre une nouvelle idée, je me dis, waouh, c'est ça. Hein, c'est une fille qui a 36 ans et qui me dit, ouais, c'est ça que je veux faire, c'est ça qui m'intéresse. Donc, et puis, hop, le lendemain, on lui parle d'autre chose et dit, waouh, oui, mais ça aussi, ça serait vraiment bien. J'aimerais
donc, ça
tellement faire
jamais,
ça.
Quoi.
Donc, ça s'arrête jamais.
Tourbillon.
Et donc, finalement, de s'engager dans une voie, c'est renoncer à toutes les autres. Et c'est hyper difficile et hyper compliqué.
Y compris dans le domaine affectif.
Ah ben oui, j'allais dire
encore plus.
Presque surtout. Hein, c'est quand même tellement plus important le domaine affectif. Oui, bien sûr, parce que justement, il y a toute cette notion d'engagement. D'abord, par rapport à l'engagement amoureux, hein. Déjà, on le retrouve bien chez les ados surdoués, c'est-à-dire qu'ils ont la trouille, ce qui est légitime d'avoir la trouille d'aimer. Mais là, une fois de plus, ce qui est intéressant chez les surdoués, c'est que c'est finalement une question d'excès, c'est-à-dire que ce dont les autres vont plus ou moins se débrouiller, chez eux, ça va devenir tellement présent et tellement envahissant et tellement exacerbé qu'ils ne peuvent pas contourner le problème.
Alors, comment apprendre à gérer tout ça? Je voudrais maintenant qu'on passe dans cette partie-là, mais on va introduire cette dernière partie d'émission avec Anthony Bélanger. Si la musique avait une incidence sur les personnes surdouées, il va justement nous en parler. Et puis, comment apprivoiser ce don? On a beaucoup de gens qui nous appellent, beaucoup de gens qui témoignent. Je ne peux pas vous donner la parole à tous, mais j'y suis persuadée que cet aspect solution va vous intéresser. À tout de suite.
Et si c'était ça le bonheur?
Et si c'était ça le bonheur sur Europe 1.
On a beaucoup de témoignages qui nous arrivent, hein, sur les adultes surdoués. J'essaie de faire un tri, hein, dans tous les mails, notamment. Roland nous dit, j'ai 43 ans, je me suis rendu compte que j'étais précoce en faisant tester mon fils. Ça a été une révélation de comprendre que je ressentais tout en flash, là où les autres progressaient pas à pas. Que j'étais hypersensible, abritée derrière l'humour. Je cherche encore que faire de cela entre spiritualité, entreprise, travail. Ça fait 8 ans que j'ai compris cela. Je le digère à peu près aujourd'hui. Je m'en protège également, car quelqu'un qui comprend tout de suite, ça gêne. Beaucoup de gens pensent que ça leur fait de l'ombre. Et en effet, il nous explique qu'il s'éclate dans la spiritualité. Lely qui se reconnaît entièrement dans ce que l'on dit, hypersensibilité, cerveau toujours en action. J'ai le défaut de tout intellectualiser, j'ai beaucoup de mal à lâcher prise au quotidien. Ma fille a été détectée enfant à haut potentiel intellectuel avec un QI de 145. Elle présente déjà les mêmes symptômes que moi et je suis très vigilante pour qu'elle ne rentre pas totalement dans le même mode de fonctionnement que moi, ce qui vous met en marge de la société. Je ne peux pas vous lire évidemment tout, j'essaie d'en sélectionner. Je voudrais qu'on accueille Anthony Bélanger, si vous voulez bien. Bonjour Anthony.
Bonjour Faustine, bonjour à tous.
Des petites histoires amusantes et intéressantes également autour justement du QI aussi. Hein.
Oui, tout à fait. Par exemple, vous savez, il y a une vieille croyance qui dit que quand on fait écouter du Mozart à son bébé, quand on est enceinte, ça peut marcher, ça peut améliorer son intellect. Et bien en fait, cet effet Mozart n'existe pas, figurez-vous.
Tiens donc.
Et non, l'effet Mozart qui a connu son moment de gloire, vous savez, après la parution, c'était en 91, d'ailleurs d'une étude française donnant des résultats remarquables en cas de trouble du comportement allant quand même de la trisomie à l'autisme lorsqu'on écoute du Mozart. Pas du Schubert, hein, pas du
Mozart,
Beethoven,
bien compris, du Mozart principalement.
Voilà, alors des résultats qui semblaient avoir été confirmés quelques années plus tard par un groupe de scientifiques américains. Ils ont fait écouter la sonate en ré majeur pour deux pianos K448 de Mozart à 36 étudiants et ont montré une augmentation temporaire mais réelle de leur performance intellectuelle. Alors vous savez ce qui s'est passé? L'effet était immédiat. Des milliers de futures mères se sont mises à poser des écouteurs sur le ventre pour faire profiter leur fœtus de l'intégrale des œuvres de Mozart. Sauf que depuis, évidemment, d'autres études autrement plus sérieuses ont été conduites, notamment une qui a porté sur 8000 enfants de 10 à 11 ans, des enfants divisés en trois groupes. L'un du Mozart, l'autre de la pop et le troisième une histoire racontée par un acteur. Et puis on a fait passer des tests de QI à tout le monde. Conclusion, aucun effet Mozart mesurable.
D'accord, par contre écouter du hard rock, ça peut aider.
Et oui, parce que les mêmes scientifiques qui ont disqualifié Mozart, les méchants, se sont rendus compte que le death metal, figurez-vous, pouvait être la vraie musique des surdoués. Ça, c'est encore une équipe de scientifiques britanniques qui s'est penchée sur les goûts musicaux des élèves de l'Académie Nationale pour les Jeunes Surdoués, un groupe issu des 5% des élèves les meilleurs du pays. Et surprise, l'effort en thème délaissent le jazz ou Mozart, qui sont a priori plutôt des musiques qui leur conviendraient, hein, on le pense, pour des groupes comme Slayer ou System of a Down. En fait, ces jeunes dont les méninges carburent à longueur de journée, eh bien, aiment décompresser au son hardcore, une façon radicale, mais semble-t-il efficace, de décompresser véritablement.
Ça vous étonne assez moyennement, finalement?
Non, moi, je trouve ça plutôt d'abord bien d'en arriver là, et moi je l'ai constaté complètement, hein, que les ados sont complètement à fond avec ce type de musique, mais parce que finalement ça sert d'anxiolytique, c'est-à-dire que ça les calme. rythme, ça les apaise. Ça les apaise, et en plus, la rapidité du rythme du hard rock vient finalement se synchroniser avec la rapidité du fonctionnement de leur cerveau. Et donc, ça permet d'atteindre une espèce d'équilibre.
Voilà, donc,
il existe également, Anthony, des surdoués, alors, mais vraiment extrêmement précoces.
Alors voilà, celui-là, c'est le cas du Britannique Michael Ali. Alors, il a passé une série de tests d'aptitude faisant appel à l'intelligence mathématique, spatiale, logique, et il vient d'intégrer Mensa, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, c'est l'association internationale des surdoués dont les membres ont un QI statistiquement supérieur à 98% de la population. Alors pour y entrer, Michael a passé des tests, donc, et obtenu un score de 137. Comment ? Le problème, c'est qu'il a 3 ans, Michael. Et il sait déjà lire et écrire depuis l'âge de 2 ans. Voilà. En plus, il peut additionner et soustraire des nombres de 4 chiffres et apprend, semble-t-il, assez vite, hein, disent ses parents, les multiplications, là, en ce moment. Cela dit, il reste impossible pour le moment de lui trouver une école, évidemment. À 3 ans, même avec la meilleure volonté du monde, le corps enseignant ne le trouve pas émotionnellement prêt pour intégrer le cours préparatoire.
C'est peut-être un petit peu tôt, Anthony. Oui. Merci beaucoup, Anthony Bélanger, qu'on retrouve dans Le Blogueur sur Arte et tous les jeudis dans cette émission. Jeanne Siofachin, vous qui êtes psychologue, comment on peut faire une fois donc on voit qu'il y a beaucoup de gens là qui vont se plonger dans vos récits parce que ça interpelle du monde. Qu'est-ce qu'on fait de ça et comment on peut réussir à faire de cette précocité une force?
C'est-à-dire que effectivement, il faut comprendre et décoder. C'est-à-dire que effectivement, de savoir qu'on est surdoué, il faut effectivement comprendre bien les mécanismes pour pouvoir d'une certaine façon se réapprivoiser ce que l'on est et relire un peu comme si vous vous baladiez dans un musée. Vous avez toujours les mêmes images, mais vous changez les étiquettes. Donc déjà, ça redonne du sens et ça redonne de la cohérence. Donc ça me paraît vraiment une étape essentielle, mieux se connaître, s'apprivoiser et
relire sa vie et se travers
réconcilier.
Ce prisme-là.
Oui, et se réconcilier avec soi, premièrement. Et ensuite, suivant les difficultés que rencontrent les personnes, par exemple, au niveau professionnel, ce qui est très caractéristique souvent, c'est que ce sont des adultes, leur mode de pensée fait qu'ils ont une pensée très intuitive, très fulgurante. C'est-à-dire qu'ils savent en avance comment les choses vont être. Sauf qu'ils sont dans l'incapacité, à cause de leur mode très particulier de fonctionnement cérébral, d'expliciter les étapes et les démarches. Ils peuvent pas dire
que ça va tellement vite qu'ils peuvent, ils sentent déjà quelles peuvent être les conséquences.
Voilà, donc une espèce de clairvoyance, une espèce d'être en avance. Sauf que si vous êtes dans une position hiérarchique inférieure, c'est difficile de dire à son patron, à son chef, en fait, il faut faire les choses comme ça, mais je peux pas vous expliquer pourquoi, mais je suis sûre que c'est comme ça qu'il faut les faire. Donc après, on va travailler avec ça, justement, pour décoder. Ou on va travailler, justement, parler de l'engagement amoureux et de cette peur à cause de l'amour avec un grand A et la peur de la trahison et effectivement, tous ces enjeux-là. C'est-à-dire qu'après, ce qui est important, c'est que le psy soit éclairé au niveau de la compréhension intime du fonctionnement de ces adultes pour adapter l'accompagnement et la prise en charge et aider ces adultes-là dont la plus grande souffrance, finalement, c'est pas tellement le décalage, mais le sentiment de décalage.
Marilyn nous écrit « Mon fils de 12 ans est actuellement en thérapie parce qu'il a des troubles du comportement dus à sa précocité. Mon beau-frère et le père d'une amie ont les mêmes symptômes. Cela fait 3 cas à 3 tranches d'âge différents. Fabienne nous écrit qu'elle est dans une famille de surdoués. Le livre de Jeanne sur les relations amoureuses a apaisé ma relation avec mon mari. On se comprend mieux maintenant. On a beaucoup de témoignages. Encore une fois, Olivia, j'ai fait une scolarité calamiteuse. Je savais lire avant de rentrer à l'école et j'ai commencé l'école avec 2 ans d'avance. Puis j'ai redoublé 3 classes. J'en ai bavé ensuite. J'ai eu mon bac facilement alors que mon lycée voulait m'expulser car j'avais de très mauvaises notes. J'ai passé tous mes entretiens d'embauche haut la main et finalement, je ne me sens à ma place nulle part. Il y a ce côté-là aussi, je ne me sens à ma place nulle part.
Oui, c'est-à-dire que c'est ce qu'on disait au niveau du décalage, c'est-à-dire mais souvent, les ados le disent très bien. Ils disent que même quand ils sont dans un groupe, ils ont l'impression, un peu comme on l'est dans le studio, d'avoir une espèce de vitre qui sépare du monde et qu'ils n'arrivent pas à être complètement avec les autres tout en étant avec eux. Et oui, donc une espèce de sentiment aussi de solitude. J'ai beaucoup de témoignages et d'adultes qui rapportent bien cette espèce de sentiment, même s'ils sont entourés, même s'ils sont en couple, une espèce de solitude existentielle. Une espèce de solitude existentielle. Avec, bon, après, toutes des questions autour de trouver un sens et quelque chose. Vous parliez de cet homme, je crois, qui parlait de spiritualité, c'est-à-dire d'aller rechercher. Moi, je vous disais, en fait, par exemple, de travailler autour de la pleine conscience et de la méditation, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien avec les adultes surdoués.
Une autre clé hein, pour aller de l'avant. Merci beaucoup, Jeanne Siofachin, de nous avoir accompagnés.
Merci
trop
à
intelligent
vous.
Pour être heureux. Il est paru à quelle édition ce livre? Je ne l'ai pas sous
Odile
les
Jacob.
Yeux. Aux éditions Odile Jacob. Beaucoup de personnes. Hein, on embrasse Philippe, Barbara, Alexandre, Marilyn, Lionel. Vous étiez beaucoup à vouloir intervenir. N'hésitez pas à nous faire parvenir des mails qu'on fera suivre, évidemment, à Jeanne si vous voulez témoigner dans son prochain ouvrage. Pourquoi pas? Demain, ça sera un kiosque spécial Femme Marie-Claire. Prenez soin de vous, Julia.
Vous aussi, Faustine.
Parce que vous êtes bien malade.
Oh, je voulais pas le dire.
On se retrouve demain à partir de 14h30 sur Europe 1.
Et restez avec nous tout de suite. Place à Laurent Ruquier sur Europe 1.